19h-20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. On est le lundi 23 décembre 2019 et oui, ça approche le réveillon de Noël pour tous. Mais nous, on est toujours là en ce début de semaine pour vous accompagner durant toutes les vacances de fête de fin d'année. Au menu de cette émission, on reviendra sur l'AS Monaco et Jardim. Et oui, les montagnes russes, on peut les appeler comme ça. On aura aussi le cas de Edinson Cavani. On l'annonce du côté des Colchoneros à l'Atlético de Madrid. On verra tout ça, sans oublier le Chelsea de Lampard qui donne la leçon au Tottenham de José Mourinho, mais aussi un bilan à mi-saison de la Ligue en Conforama 2019-2020. Les bonnes questions de mi-saison aussi. On regardera de près la 19e journée du championnat de France de football. N'oubliez pas le 01-53-48-3000 et aussi la twittosphère pour réagir avec toute l'équipe de Time Sport ce soir pour m'accompagner. C'est parti, go go Time Sport.
Time Sport.
Et ce soir, pour m'accompagner durant cette émission, on aura le privilège d'avoir Alexandre Seban avec nous. Comment ça va, Alex ?
C'est gentil, ça s'est bien présenté. Ça va, Bilal ? Merci.
Oui, ça va très
merci,
très bien.
Merci de l'invitation une fois encore. Je suis très content d'être là. J'ai l'impression que c'était il y a très longtemps et en même temps que c'était aussi hier. Ta dernière apparition.
Oh, ça fait pas longtemps.
Mais ça me fait plaisir en tout cas d'être avec vous à nouveau.
Loïc Caudran, allez, qui prend part avec nous dans cette émission pour la première fois en tant que consultant. Comment ça va, Loïc ?
Bah, ça va, merci à toi, Bilal.
On n'a pas le track, hein, on y va, lentement.
Ça va, c'est la première, mais ça va, on a travaillé un petit peu les sujets.
En plus, il y a une belle équipe là. On a le coach Tollé aussi qui nous accompagne ce soir en ce début de semaine. Comment ça va ?
Ça va, impeccable, bien. Écoute, je suis en vacances scolaires. J'étais depuis 15 jours avec les grèves de transport, mais non, ça va.
Toujours les grèves, et on pense à nos auditrices et nos auditeurs en région Île-de-France. Et oui.
Qui galèrent en voiture aussi.
Et qui galèrent, bien sûr, les automobilistes et dans les transports.
C'est l'occasion de nous écouter, d'un autre côté.
C'est ça. Mais bien sûr. Et les podcasts à réécouter, Alex, sur le site internet beurrefm.net. Hervé Dibi sera avec nous ce soir.
Bonsoir Bilal, bonsoir les auditeurs.
Comment ça va Hervé ?
Écoute, content de vous retrouver, hein. Ça faisait deux semaines, mais je suis content de vous revoir.
Ouais, toi carrément, tu as pris des congés, tu nous as lâché.
Exactement.
Ouais. Allez, on prend le chemin Hervé avec toute l'équipe de Time Sport du Rocher.
Time Sport, le ras-le-bol.
Défait facilement par Lille en Coupe de la Ligue, on l'a rappelé la semaine dernière. Monaco s'est vengé en infligeant une lourde défaite à Alexandre aux Dogs ce samedi soir, 5 buts à 1. Entre ces deux matchs et les rumeurs de départ d'un certain Leonardo Jardim, le club de la Principauté a vécu quand même une semaine qui symbolise parfaitement ce qu'il traverse depuis le début de saison. Beaucoup de bas, mais très peu de haut. Où et qui sont les responsables de cela ? Loïc, on t'écoute. Alors,
bah, je pense que déjà, le premier
ce club,
c'est sûrement au niveau de l'institution. Parce que déjà, on se rappelle un peu ce qui s'est passé avec Thierry Henry. On se rappelle qu'ils ont rappelé encore une fois Jardim. Donc voilà, aujourd'hui, le club, on ne sait pas vraiment où ils veulent aller vraiment. Malgré le fait que voilà, ils ont investi pour leur nouveau centre de formation qu'ils veulent faire. Pour qu'ils soient le plus performant d'Europe.
On dirait, Loïc, qu'ils ont perdu un peu de leur prestige, si je peux me permettre. Monaco, avec les recrutements, ce n'est plus ce qu'on a connu il y a quelques saisons en arrière.
Après, ils ont choisi de vendre aussi.
Ouais, pas faux.
De vendre. Paris Saint-Germain, quand ils ont des bons joueurs, ils les gardent. Même si après, bon, ils vont les tuer dans d'autres côtés. Mais au moins, Monaco, dès qu'ils ont des bons joueurs, ils veulent les vendre. Donc après, on se demande où ils veulent aller au final.
Ouais, Hervé, alors.
Est-ce qu'ils veulent aller plus sur de la formation ? Et donc, ils attendent l'arrivée de leur nouveau centre au top du top. Ou bien est-ce qu'ils veulent du résultat tout de suite aujourd'hui, on ne sait pas trop.
Ouais. Monaco, Hervé.
Est-ce qu'après, c'est pas
la
aussi
suite, la réaction de Loïc.
Les limites du trading de joueurs, comme on pourrait le faire aussi pour Nice ou pour Lyon dans une moindre mesure. À partir du moment où tu vends à prix d'argent tes meilleurs joueurs et que tu les remplaces par des joueurs qui sont des promesses ou qui sont encore... ils sont carrément des joueurs médiocres, ben faut pas t'étonner que la mayonnaise elle prenne pas, tu vois. Quand tu vois par exemple, je vais remonter un peu quelques années en arrière, mais par exemple je sais qu'il y a deux saisons Monaco a vendu Benjamin Mendy a pris d'argent à City et l'ont passé par Georges. Je pense qu'ici autour de la table personne connaissait Georges et on peut faire le même constat avec par exemple Bernardo Lopez oui, qui a été vendu à City. On l'a remplacé par Ronny Lopez. Alors oui, au début, il a eu du mal. Après, il y a eu du mieux. Mais c'était pas non plus du niveau de Bernardo Lopez. Donc je pense que...
Bernardo Silva.
Bernardo Silva, c'est ça.
T'as un Lopez dans ta famille?
Pas du tout. Merci beaucoup. Mais voilà, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est un peu aussi les limites du trading de joueurs. Je pense que Monaco est un peu victime de sa politique sportive. Et je pense que c'est un peu trop facile aussi de toujours tirer à boulet rouge sur les coachs aussi, sur les entraîneurs. Je pense qu'à un moment donné...
Ben Yedder et aussi Slimani, champion d'Afrique quand même.
Oui, mais encore une fois, tu vois que la politique sportive de Monaco, elle est incohérente. Ils ont 5 avant-centres, ils ont aucun latéraux droit de certitude, tu vois. On dirait Bilal quand il fait ses courses, tu vois. Il y a pas de cohérence. À un moment donné, faut être équilibré, tu vois. Quand tu vois qu'ils achètent Maripane 18 millions à Alaves, qu'ils ont Badiachile, qu'ils ont Edma Kotchele à droite, ce qui est le latéral droit de Monaco. J'ai un trou.
Je sais même qui, j'arrive même pas à voir qui joue à droite là à Monaco.
Ils ont acheté Ruben Aguilar.
Aguilar justement, oui, qui s'est pas imposé.
Voilà, qui a du mal à confirmer les bonnes dispositions qu'il avait montrées à
Montpellier.
C'est compliqué. Moi, je pense que pour laisser la parole à Alex, je pense que Monaco est entre autres éléments responsable, enfin victime de sa politique de trading de joueurs et de mauvais choix aussi en termes de recrutement.
Clairement. Après, alors Alex, le
problème à Monaco, il est peut-être pas si gros que ça.
Ouais.
Parce qu'en vrai, quand tu regardes bien, ils ont la deuxième meilleure attaque de Ligue 1. C'est peut-être juste se renforcer un peu défensivement. Peut-être que s'ils se renforcent défensivement, ça suffira après.
C'est ce que je disais. Je te dis, ils ont 5 avant-centres, tu vois. Ils ont Kevin Augustin, ils ont Slimani, il y a Ben Yedder, il y a Keita qui peut jouer un peu partout sur le front de l'attaque, il y a Pellegrino, tu peux compter aussi Golovin. Et puis quand tu regardes la défense, Glick, Jemerson, que tu vois Maripane qui vient d'arriver d'Alaves, voilà, ça laisse quand même à désirer. Après, là où on peut quand même être positif, c'est de se dire que Monaco, après un début de saison assez désastreux, parce que
à la 7e place, hein.
Monaco a quand même perdu un match sur 3, 6 sur 18, ils sont 7e à 5 unités de Rennes, tu vois. Donc ils sont potentiellement encore en lice dans la course à l'Europe. Donc je pense que tout n'est pas encore perdu, que malgré une première partie de début de saison assez compliquée, Monaco peut encore sauver sa saison.
Merci Hervé. Alex, concernant ces Monégasques,
je crois qu'il a vraiment tout dit, tout bien résumé, notre ami Hervé. Quoi te dire, que c'est pas une équipe qui est en déprime, qui est en dépression, parce que on l'a pu le voir contre Lille, ils ont encaissé le premier but de la partie, et ensuite ils ont réussi à revenir et à dérouler, et ils peuvent faire confiance à des attaquants bien aiguisés, à ça et notamment Wissam Ben Yedder,
pas faux,
qui est évidemment une très bonne pioche pour l'équipe du Rocher.
Ouais.
Après le recrutement, c'est vrai qu'il a été un peu fait de manière bizarre. Ceci étant, c'est vrai quand Hervé dit que ils ont remplacé Mendy par un tel, et que le un tel en question, on le connaissait pas. Bon, après c'est vrai que tu peux pas non plus savoir à l'avance que tu vas te planter quand tu prends un mec. C'est un peu comme avec l'Olympique de Marseille, là ils ont pris Benedetto. Bon, Benedetto, qui est-ce qu'il connaissait à part sa grand-mère en Europe? Personne connaissait Benedetto. Vous venez pas me dire ici autour de la table, les supporters marseillais que vous êtes,
vous là là,
non, ah là là, Hervé mais est un supporter de l'OM
en tout état de cause, que ce soit Radonjić puis pas Benedetto et compagnie. Bon, en Europe, tu les connaissais pas plus. Là, Radonjić, il a mis 2 ans et demi avant de pouvoir faire des bonnes entrées pendant un quart d'heure, parce que quand il joue en titulaire, il est pas extraordinaire. C'est un peu le principe du recrutement pour toutes les équipes. On sait pas ce que ça va donner quand tu prends un joueur. Tu peux te laisser charmer sur. On disait avant sur cassette vidéo, bon là c'est sûr, pour moi forcément fichier informatique, mais ce que je veux dire, sur une vidéo, tu vois un mec, tu penses qu'il est bon, tu penses qu'il va faire l'affaire, et après ça marche ou ça marche pas. Pour Monaco, et tu le disais très bien de toute façon, il y a eu la morosité du début de saison. C'est un peu comme le championnat de France, un peu. Monaco résume un petit peu ce début de saison du championnat de France dans sa globalité. Assez morose au départ, avec des équipes, tu sais pas d'où elles sortent, qui devaient finir dans la fin de tableau, elles sont devant. Le PSG qui est évidemment devant, mais qui joue pas bien. Et là, c'est un peu pareil avec Monaco. Ça démarre mal. On se dit, Jardim, il va sauter au bout de 3 matchs, là, c'est plus possible. Bon, allez, ils lui ont redonné les clés du camion il y a 3 mois. Puis finalement, ça marche pas, il va se planter, ils vont le changer avant le mois de septembre. Finalement, on lui laisse le temps de se réorganiser. Il a eu beaucoup de blessés aussi. Beaucoup de choses à remettre en place. Malgré tout, comme tu l'as dit, l'attaque marchait, mais derrière, ça pêchait. Et au final, à la fin de cette première partie, qu'est-ce qu'on constate ? Que l'AS Monaco, effectivement, est 7e avec 28 points, c'est-à-dire 5 points. À 3 points de Lille, qui vient de mettre une correction, donc du 4e. Mmh. Et à effectivement, tu l'as dit, Rennes, 33 points, n'est pas très loin.
Ah oui.
Alors, tout peut encore arriver pour cette équipe. Et c'est pas une de celles, contrairement à Lyon, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui me fait le plus peur, qui me fait le plus craindre une dégringolade à nouveau. J'ai l'impression qu'au contraire, c'est en train de se restructurer et on, comme ils peuvent compter sur quand même une bonne attaque et avec un milieu de terrain qui commence à bien se reconstituer, notamment aussi avec Bakayoko, bah ça peut que s'améliorer encore.
Merci Alex. On va passer au coach Tollet. Non, bien sûr. On laisse du temps là. On est dans la joie, la bonne humeur. C'est Noël.
Ouais, Alex disait que Monaco représente un petit peu cette première partie de Ligue 1, on y reviendra plus tard. J'ai envie de te dire que quand tu vois la semaine de ce Monaco-Lille, bah, ça représente parfaitement l'AS Monaco cette saison, c'est-à-dire capable d'exploser totalement, même s'il avait fait un petit peu tourner en Coupe de la Ligue avec ce score de 3-0. Et puis
c'était clairement pas l'objectif. En plus, voilà, ils ont d'autres vrais problèmes.
Mais tu prends quand même voilà 3-0 contre un Lille qui était plutôt solide, costaud et qui enchaînait les victoires, et un Monaco qui lorsqu'elle joue à son niveau, c'est-à-dire que lorsque le bloc défensif de Monaco est un peu plus cohérent avec l'animation offensive, bah, tu te retrouves avec certainement pour moi la deuxième meilleure équipe de France derrière le PSG, a explosé Lille 5-1.
Mais après, quel est le véritable niveau de Monaco Vu qu'il montre un visage différent tous les deux matchs.
Oui, mais en termes de potentiel, ça reste pour moi, en tout cas, c'est mon point de vue.
Il n'y a pas de souci.
Derrière Paris, c'est la meilleure équipe.
Ouais, après, c'est le stéréotype d'une équipe française.
C'est la meilleure équipe du championnat. Vous avez dit, le Monaco est actuellement 7e. Ils ont fait un début de saison catastrophique après 6 journées. Le championnat.
6 défaites.
Le championnat, si tu prends Monaco après 6 journées, Monaco est 3e derrière l'OM et le PSG en termes de régularité. C'est vrai qu'en fait, là, il y a. On a entendu le sonnet d'alarme, le 3-0, parce qu'en fin de compte.
Mais la semaine dernière, on nous a dit que Jardim était devant la porte, il a
réussi à la fermer. Oui, mais parce qu'au niveau de l'institution aussi au-dessus, le torchon brûle aussi, avec Petrov, ça, c'est un peu compliqué. Il y a une partie du vestiaire aussi qui semble-t-il, aurait lâché l'entraîneur. Mais
d'ailleurs, Petrov a fait encore une déclaration assez tapageuse.
Alors que sportivement, Monaco n'est pas à la ramasse, et je te rejoins. À partir du moment où ils arriveront vraiment à trouver un équilibre un peu plus important, surtout défensivement, Monaco finira. Moi, je les vois finir dans les trois premiers, deuxième ou troisième sans problème.
Ah ouais, franchement, quand même. Parce que prédire Monaco, qu'il va finir dans les trois,
c'est de la loterie.
Il y a un potentiel tellement important. Ouais. Ils sont partis de tellement loin que même en étant plus que moyen. Moi, je les vois quand même finir un match
après,
par
semaine.
Après, ça
va être peut-être aussi des confrontations directes avec les prétendants au podium qui vont déterminer un peu tout ça, parce qu'au final, on se retrouve avec des
Marseille, Lyon, Monaco.
Qui sont pas non plus extraordinaires.
Bordeaux aussi.
Que ce soit Marseille, que ce soit Lyon, que ce soit Rennes, que ce soit Lille, que ce soit Monaco, Nantes, Reims. Voilà,
il y a les tendances.
Les équipes
bien sûr.
Qui sont là, ça joue plus ou moins de la même manière, ou disons avec plus ou moins de réussite. Marseille s'est détaché, on a vu un petit peu là avec les performances, même la contre-performance de la semaine dernière, c'était contre Metz, si je dis pas de bêtises.
Tout à fait.
Même s'ils se sont fait voler, faut quand même le rappeler. C'est important de le rappeler toutes les semaines que Marseille s'est fait voler à Metz. Avec un pénalty imaginaire.
Ah, quand même pas. Je te trouve dur.
En tout cas, pour revenir sur.
Le mec, il a mis un pied sur le sol, l'autre, il a.
Je te trouve dur.
On va revenir sur Marseille, t'inquiète pas, en seconde partie de l'émission. Oui, le coach Tollet.
Il y a un équilibre offensif, il y a un potentiel offensif.
Monaco,
juste,
avant de terminer.
Impressionnant. Par contre, il y a quand même les joueurs pour faire le job. C'est-à-dire que, enfin, pour moi, ils n'ont même pas besoin de recruter au mercato. Avec le potentiel de l'effectif qu'il y a, juste trouver l'équilibre. Et après, ils ont besoin de rien du tout. Ils ont tout ce qu'il faut pour.
On peut aussi relativiser et se dire qu'il y a du mieux par rapport à l'année passée. L'année dernière, à la même période, ils avaient que 13 points. Là, ils en ont 28. Donc bon, c'est pas difficile.
On lâche le rocher pour revenir dans la capitale française.
Time Sport.
Eh oui, le départ d'Edison Cavani se précise, comme l'a révélé nos confrères de la Sky Sport Italia ce lundi, l'avant-centre du Paris Saint-Germain devenu remplaçant et dont le contrat expirerait en fin de saison. Il a donc trouvé un accord, soi-disant, avec les Colchoneros de l'Atlético de Madrid. Vous en pensez quoi, messieurs?
C'est logique.
Ouais, logique pour toi, Alex, alors.
Ils nous ont sorti l'info, nous aussi, à Time Sport, on l'aurait dit hier, en se disant, tiens, en fait, on n'a pas parlé de Cavani, il va se barrer.
On a parlé de Laurent Blanc avec Achille la dernière fois.
On aurait pu le dire, on aurait pu tweeter hier, Bilal, Cavani, ça sent le départ. Toi, t'aurais la même info que les mecs là de Sky Sport, je sais pas où. Et finalement, c'est logique. Le gars, il devait partir l'été dernier, voire même l'été d'avant.
Le grand regret des supporters parisiens, faut le rappeler quand même.
Ils ont quand même essayé de le retenir. Et encore une fois, quelle erreur quand tu fais Icardi.
De la part du Paris.
Tu conserves Cavani, mais tu fais une erreur dans ta tactique, dans ta gestion. Cavani, il lui reste un an de contrat. Tu veux faire quoi encore, comme avec Rabiot, comme d'autres clubs ont fait quand ils ont laissé partir. Je sais pas, j'en reviens toujours à Marseille, mais je sais pas pourquoi. Quand ils ont laissé partir Gignac pour 0€ à Marseille, ou tu vois, des trucs invraisemblables. Et là, on nous dit, ah mais il va peut-être partir parce qu'au mois de juin, il a son contrat qui expire.
Bah, il y a pas que lui peut-être.
Pour le comptable du club au PSG, il a dû dire, 20 millions, on prend quand même. On prend 20 millions pour Cavani, c'est bien là, parce que sinon ça va faire peanuts.
Zéro,
Les supporters, ils veulent pas.
Là, je parle juste d'un point de vue comptable.
Bien sûr.
Évidemment qu'il doit s'en aller, Cavani. Il joue pas, le mec. Il a la Copa América. C'est pas dans son pays, la prochaine.
C'est en Argentine et en Colombie.
C'est Argentine et Chili.
Colombie.
Argentine-Colombie.
Tout à fait.
Pour moi, je sais qu'il y avait Argentine dans le lot.
Ouais.
Bon, il y a quand même un championnat à gagner en fin de saison, donc pour lui et son équipe nationale, enfin un tournoi. Évidemment qu'il doit s'en aller.
Ouais.
Après, est-ce qu'ils vont vouloir maintenant le laisser partir réellement? Est-ce qu'ils vont le laisser partir avant un dernier match au Parc? Le type, c'est le meilleur buteur de l'histoire du club.
C'est ça.
Ça fait 10 piges que les supporters du Parc n'ont pu aimer autant un mec depuis le départ de Paoletta.
Et on va toujours le nom de Cavani
comme un voleur. Mais il faut arrêter les bêtises là.
Aujourd'hui, c'est ça le plus grand.
Alors Loïc,
que se passe-t-il au PSG?
Le plus grand problème, c'est
que ça passe bien au PSG.
Le plus grand problème, c'est qu'ils partent comme ça. Le plus grand problème, c'est qu'ils partent comme ça. Parce que, comme il a dit, meilleur buteur du Parc, à l'heure actuelle, il est scandé par les supporters, il a fait tous les efforts qu'il fallait. Je pense qu'il n'aurait pas fallu le laisser partir comme. Enfin, il partira, ça c'est sûr.
Ouais.
Mais il faut pas le laisser partir comme ça. Je pense que.
Ça, c'est quand même.
Ils auraient dû quand même le garder.
Les épisodes se répètent et Alexandre a raison.
Essayer de lui faire une sortie à l'Ibrahimovic sur la
un mot, une phrase. Revenir. Et quand même, la gestion de Tuchel avec Cavani. Mais faire entrer le meilleur buteur de l'histoire de ton club 3 minutes par match en fin de rencontre.
Après la gestion
que
des entraîneurs.
Coach Tolé, alors, envie de le souligner,
tu peux nous en parler. La gestion, connais très bien
la
dans
la gestion
ça,
des entraîneurs,
Loïc.
c'est facile, on va dire, à critiquer entre guillemets.
Non, mais quand,
mais quand derrière t'as une pression, t'as la pression des dirigeants, des présidents, t'as la pression des supporters.
En Ligue 1, le Paris Saint-Germain pourrait jouer à 7. Ils sont champions de France avec
2 buts là.
C'est facile de
ça fera plaisir à Mehdi.
T'as l'impression des joueurs derrière.
Rapidement, on reviendra sur le cas Edison Cavani après la pause. T'inquiète pas, Hervé.
Les joueurs, tout ce que tu veux.
Ouais, c'est facile à dire.
Mais là, on te parle de Cavani.
Cavani quand même.
On te parle pas d'un mineur de 16 ans qui découvre la Ligue 1.
Bien sûr.
Alors après, ça qu'il y a toujours eu ce point d'interrogation sur sa véritable, sur son problème à la hanche, sur sa blessure. Est-ce qu'il est rétabli, pas rétabli? Mais on a sentiment qu'ils ont joué un petit peu de ça.
Il dit qu'il a 100%.
Pour en profiter d'eux. Enfin, alors que tu mets Icardi, qui est extrêmement efficace. Aussi,
c'est pas un merci, le coach Tolé, on va revenir. Tu gardes ça après, en tête, on reviendra. On reviendra après la première pause, c'est promis. Chers auditrices et auditeurs, vous restez donc bien accrochés sur Beurre FM. On revient de suite après ça.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport. Avec Bilal Nenman.
Eh oui, de retour sur l'antenne de Beurre FM, 19h-20h, toujours en live chaque semaine. Chaque jour, je veux dire, du lundi au vendredi, désolé. Le numéro du standard pour nous appeler, réagir avec vos consultants, le 01 53 48 3000, et toujours en compagnie de notre journaliste auteur. Eh oui, de magnifiques livres, avec un magnifique CR7 versus Messi, c'est
exactement
bien ça.
Aux éditions
Alexandre.
Solar, mon
cher. Eh oui, les éditions Solar, un petit clin d'œil à Marie.
C'est un très bon cadeau de Noël.
Ouais, c'est sûr, c'est sûr.
Dépêchez-vous d'aller à la
bien sûr.
Une magnifique chemise aussi.
Sur Amazon. Ouais. Merci.
Loïc Caudron est avec nous aussi pour la première fois en tant que consultant dans cette émission. Le coach Tolé et Hervé Dibi. Et on revient à toi, Hervé. On parlait d'Edison Cavani, le magnifique attaquant du Paris Saint-Germain, grand attaquant.
Je pense que Ouais. Enfin, cette annonce de possible potentiel accord de Cavani avec l'Atlético et tout, je pense que c'est gagnant-gagnant pour les deux parties. D'un côté, si ça se fait durant le mercato hivernal, ça permettra au Paris Saint-Germain d'avoir.
Moi, je serais triste de voir partir avec Edinson Cavani.
Ah bon?
Vraiment?
Il a pas assez.
Ouais. Non, moi j'aime bien le joueur.
Il a pas
non,
fait assez mal à l'Olympique de Marseille.
Du coup, franc. J'ai bien aimé Ronaldinho Gaudio aussi.
On peut être supporter de l'OM.
On peut être supporter
privé
du camp aussi.
Considérer que les joueurs du Paris Saint-Germain
ou du Restart aussi. Mais qui te dit que je suis supporter de Marseille quand même?
Non, tu sais pas.
Oh, il a dit ça reste un peu.
Tu sais, qu'est-ce que je vais te dire?
Qu'on peut aimer une équipe et pas forcément détester notre équipe. C'est ce que tu vas dire.
On poursuit Edinson Cavani.
C'est pas ce que je voulais dire.
Hey, Edinson Cavani, on reviendra sur la Ligue 1 Conforama et ses clubs. T'inquiète pas.
Non,
on va revenir après.
S'il y a un joueur parisien que les supporters marseillais apprécieraient, ce serait Edinson Cavani.
Il n'y a pas de souci.
Après, pour revenir à Cavani, comme l'a dit Alex, c'était malheureusement, ça faisait. Voilà, enfin, c'était dans la continuité des choses. L'Atlético, ça fait deux saisons qu'ils sont intéressés par l'attaquant uruguayen. On pensait peut-être qu'il allait partir l'été dernier. Il a quand même voulu rester. On a voulu le retenir. Enfin bref, on ne sait pas trop. Il y a eu cette histoire de blessure. Ok. Là maintenant, enfin, je veux dire, la question ne se pose pas. Pour moi, vu le temps famille qu'il a, il joue quasiment pas le mec. On dirait.
On en est à lui offrir des pénalties. Tiens, vas-y, frérot.
On dirait un attaquant de Metz de 17 ans qui fait ses premiers pas en Ligue 1 avec des 5 minutes. Alors, je veux bien que. Kicardi a une stat des stats juste fou, enfin franchement
c'est confiance,
ce qu'il fait c'est impressionnant, il y a aucun problème, mais là t'as quand même Cavani sur le banc de touche, c'est dommage de l'avoir géré de cette manière. Maintenant je pense que ça sera quand même une grande perte pour le Paris Saint-Germain, parce que si tu as Icardi qui se baisse, qui est moins bien, tant que pur avançant, même si tu peux faire jouer Mbappé dans l'axe, ça va faire quand même un trou au niveau de l'effectif. C'est pas Choupo-Moting qui fera des différences au très haut niveau.
T'en sais rien.
Mais en tout cas, pour en Ligue des Champions,
si on parle du point de vue de Cavani, du joueur en lui-même, je pense que c'est une bonne opportunité pour lui. Comme l'a dit le coach Tolley, ça fait plusieurs saisons que les Colchoneros étaient intéressés, séduits par le joueur. Je me souviens qu'à l'époque où Griezmann était encore chez les Rojiblancos, qu'ils étaient intéressés par le profil de Cavani. En plus, l'Atlético Madrid a besoin d'un attaquant qui va permettre à cette équipe de marquer plus. Même s'il y a Diego Costa et Morata qui sont là. Voilà, et je vois pas dans ces deux joueurs des attaquants capables de marquer 20-25 buts par saison. Et je pense que l'arrivée de Cavani peut vraiment aider. L'équipe de Simeone d'être beaucoup plus efficace.
Sur ça, c'est sûr que Cavani fera du bien à l'Atlético, c'est sûr, certain. Mais après, le problème, c'est qu'il peut pas partir comme ça du PSG. C'est triste.
Bah, s'il va faire un petit match en 32e.
Après, c'est France, quoi. Bilal, terminer en beauté, se mettre une d'accord avec lui.
Au Parc des Princes sur le terrain.
Quand
tu regardes l'histoire de Cavani, tu vois qu'il a rarement jamais fait eu l'adhésion de tout le parc. Moi, je me souviens qu'à l'époque d'Ibrahimovic, Laurent Blanc fait des jeux à ailier gauche. Je me souviens qu'au début, on pointait ses lacunes techniques.
Qui?
Je vais pas citer des noms, mais il y a certains observateurs de certaines scènes, qui pointaient les lacunes techniques de Cavani, son incapacité à jouer.
Ils auraient dû aller sur le terrain pour lui démontrer.
Son incapacité à jouer en première intention. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de scepticisme et énormément de défiance envers Cavani. Et
mais il a gagné le cœur des gens.
Et c'est vraiment à partir du départ, juste pour terminer, d'Ibrahimovic, qui a vraiment eu cet amour en fait. Mais même comme ça, on n'a jamais. Il y a toujours eu, comment dirais-je, une frange d'observateurs ou de supporters qui était un peu Cavani, il est bon, mais bon, voilà quoi.
Tu penses à d'autres raisons, justement. Benzema, il est dans le même cas à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, il fait toujours pas l'unanimité.
La différence, c'est que Benzema, c'est peut-être le meilleur avançant du monde. Aujourd'hui,
pourtant, il ne fait pas l'unanimité.
Loïc, on reviendra sur le cas Benzema, mais on aura compris que Loïc est un envoyé de Yacine Bouali pour le cas de Benzema. Il reste avec nous et on va passer au derby londonien, là aussi.
Time Sport, la victoire.
Et Chelsea avec un grand monsieur pour peut-être en devenir, on l'espère. Franck Lampard donne une leçon, vous voyez, une tannée en quelque sorte à Tottenham, les Hotspurs de José Mourinho en Première Ligue. Et Franck Lampard a complètement surclassé, si je peux me permettre, Tottenham de José Mourinho, 2-0, la défense à 5 et la jeunesse des Blues, 4e, ont laissé ces Spurs 7e au classement sans solution. Entraîneur défensif José Mourinho, en tout cas, ce n'est plus ce que c'était depuis son intronisation, excusez-moi, et en 8 matchs. Il faut les rappeler, Hervé, Tottenham a encaissé 14 buts face à West Ham, 3-2, Olympiakos 4-2, Bournemouth 3-2, Manchester United, ça a fait 2-1, Burnley 5-0, le Bayern de Munich 3-1, Wolverhampton 2-1, et le fameux Chelsea 2-0. Le mood doit-il revenir à ses basiques, messieurs, pour retrouver l'efficacité, le coach Tollet.
C'est une bonne question pour en revenir en tout cas sur la rencontre d'hier.
Ouais.
Lampard, franchement, moi j'étais sceptique au départ, de par, son manque d'expérience en tant que coach au très haut niveau.
C'est vrai
qu'il a permis.
C'est un bon padawan.
Il a permis. Ouais. Il a permis. Il était où là, la saison dernière?
Derby County.
Voilà, oh, Derby de.
Et il le dit, je ne clone le système de jeu de personne.
Et c'est vrai qu'arriver à Chelsea avec cette nouvelle politique, parce que là, il se retrouve avec un effectif carrément rajeuni, mais par contre, à très fort potentiel. Ce qu'il réussit à faire aujourd'hui à Chelsea, franchement, c'est fort.
Cette nouvelle saison, génération, Pochettino, Zidane, Guardiola, Lampard qui se rajoute à cela, Marcelo Gallardo.
Après, pour en revenir à Mourinho, écoute, moi je pense qu'il a eu raison aussi de prendre des risques, c'est-à-dire qu'on le critique tellement sur son jeu soi-disant défensif où de nombreuses années il a permis de gagner des titres.
Défensif quand même.
Je suis pas d'accord parce que.
Soi-disant défensif sur les années qui lui a permis de gagner des titres en gagnant des matchs 1-0, 2-1, mais il en a gagné des titres grâce à cette animation-là. Là, pour une fois qu'il a la possibilité quand même, avec la qualité des joueurs qu'il a à Tottenham, de mettre un jeu un peu plus flamboyant. Bah écoute, moi ça me dérange pas plus. Moi en tout cas, je me suis régalé de voir certains matchs de Tottenham depuis l'arrivée de Mourinho.
Petite correction, c'était pas 2-1, mais c'était 2-0 face à United, les Mancuniens.
Voilà. Enfin, pour revenir au match d'hier, je pense qu'on a assisté à un beau derby. Voilà, c'était engagé, c'était rythmé. Et comme tu le disais, voilà, je pense que la victoire des Spurs de Tottenham, c'est avant tout une victoire tactique de la part de Frank Lampard.
Du Chelsea. Victoire de Chelsea.
Une victoire de Chelsea aujourd'hui, je m'emmène les pinceaux, je sais pas pourquoi. Donc, je disais, donc, je pense que la victoire de Chelsea, c'est avant tout la victoire de Frank Lampard, qui a su faire déjouer l'équipe de Tottenham. Et, enfin, ce que j'appréciais beaucoup chez Frank Lampard, c'est qu'il était attendu au tournant de la part de nombreux observateurs, dans le sens qu'il hérite d'une équipe qui, la saison dernière, était un peu sur la pente descendante. Il faut pas oublier que Chelsea était comme interdit de recrutement. Enfin, Franck Lampard, il s'appuie quand même sur de nombreux jeunes joueurs, en la personne de Tomori, de Tammy Abraham, de Mason Mount, qui a été juste extraordinaire hier soir. Des joueurs qui, il y a encore 6 mois, personne ne connaissait au grand niveau. Et je pense que là où Franck Lampard, il a vraiment impressionné les observateurs anglais et européens, et cette capacité à avoir su prendre des risques en mettant des jeunes et surtout tirer la quintessence. Il y a quand même je suis pas d'accord. Par exemple, quand tu vois qu'un mec comme Pedro n'est pas titulaire, tu vois, qui aurait pu dire que
Pedro, ça fait depuis combien de temps qu'il
est en bout de course, Pedro.
Ouais, il
a que 31 ans.
Il a plus d'essence, Pedro.
Sur quelle essence?
Je suis d'accord, ça fait 2-3 ans qu'il est plus dans le coup.
Peut-être 2-3 ans, je pense que ça.
Il était dans le coup quand il avait marqué
du Barça
contre le PSG, il avait marqué, je crois, en quart de finale. En 2012, il a été dans le coup, mais depuis, il n'est plus dans le coup.
Ça fait un bail qu'il n'est plus dans le coup. Après,
justement, Alexandre.
Match d'hier, c'est vrai que
trop délaissé, peut-être.
Ils prennent 2-0 avant la pause. Derrière, quand tu prends une expulsion, c'est compliqué de revenir à 10 contre 11 contre Chelsea. Pour pointer un peu ce qui s'est passé du côté de Tottenham. Mourinho, il a le potentiel avec cette équipe d'essayer de rejouer un petit peu comme il jouait avec Chelsea à pas la deuxième époque mais la première époque.
Drogba.
Quand il y avait Drogba devant, il a Harry Kane devant, je crois qu'on en avait parlé la dernière fois qu'on s'était vu avec Hervé. Il a Harry Kane devant, il a un gros milieu de terrain travailleur avec des Golgothes un peu, puis il y en a qui peuvent courir un peu vite sur les côtés pour apporter des ballons. Voilà, il peut essayer de faire ça comme d'habitude. Il révolutionnera pas non plus sa philosophie, Mourinho. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Bilal. Et puis en face, effectivement, je crois que tu le disais, Hervé, Lampard, il est en train de s'adapter à son équipe. Il a aussi, là, tu vois, tout à l'heure, on parlait de Monaco, où des mecs qui sont sortis un peu de nulle part. ça a pas marché, bah là c'est un peu pareil pour Chelsea, sauf que là ça marche un peu plus avec des joueurs qu'on connaissait pas et qui arrivent à mettre des Pedro sur le banc, même s'il avait besoin peut-être de personne pour aller sur le banc finalement, Pedro depuis quelques temps. Et ben ça prend, on verra comment ça se termine pour eux en fin de saison. Après voilà, Mourinho il va s'en sortir avec Tottenham.
Mourinho, special one.
Il a le matériel pour s'en sortir.
Ouais, pour toi, tu le penses?
Ouais, moi je trouve que c'est un peu un faux procès qu'on lui fait. Enfin, force est de constater que depuis qu'il est arrivé, il y a quand même une nette embellie dans le jeu de Tottenham. Ils sont beaucoup plus prolifiques, sont beaucoup plus efficaces devant. Il a retiré du 50e sous-sol Dele Alli qui était aux abonnés absents. Il a conforté des joueurs comme Kane.
Il a relancé
aussi Lucas Moura, même si hier il a été mis à contribution à cause de l'apport offensif de Marcos Alonso qu'il a énormément obligé à défendre. Mais je trouve que dire que Mourinho c'est un entraîneur qui fait que bétonner, je pense que c'est un raccourci. Moi ce que je trouve dommage en fait, c'est qu'on a souvent tendance à résumer la carrière de Mourinho à ce match de demi-finale de Ligue des Champions où il fait jouer Eto'o arrière gauche.
Alors l'impression que tout le monde. Si je peux me permettre de te couper là-dessus, c'est que te compléter, c'est qu'on dit toujours il a fait jouer. Non, il a jamais fait jouer. Qu'à un moment du match, l'Inter se retrouve à 10.
Exactement.
Et à un moment pour fermer le jeu. Non, mais parce que ça on l'entend comme si il a fait.
Je te promets.
Non, mais je sais bien, mais on l'a tous vu ce match. Mais on l'entend comme si, surprise du chef, Eto'o arrière droit. Non, il l'a fait. Il lui a demandé de fermer le couloir à 10 et forcément, il a défendu. T'es en demi-finale de Ligue des Champions, l'autre il joue contre son ancien club. Tout le monde l'aurait fait. Enfin, beaucoup d'entraîneurs l'ont déjà fait. Il y a rien de surprenant là-dessus, quoi.
Ouais, Loïc.
Ouais. Après, faut pas oublier que je pense que Lampard, il s'est servi de son expérience qu'il avait en tant que joueur contre Mourinho pour réussir à contrer un peu le système un peu plus facilement. Parce que lui, il était dans l'effectif de Mourinho à l'époque, un de ses joueurs phares. Donc, je pense qu'il savait précisément où appuyer pour pouvoir contrer Mourinho.
Je sais pas, quand tu vois le match d'hier, tu vois quand même que Tottenham a tiré que 5 fois.
Après, le match d'hier, c'est une osmose totale entre les joueurs et le coach. C'est-à-dire, certes, Lampard, il a fait un très bon choix tactique, mais derrière, il y a un très gros match qui est fait de la part de tous les joueurs. Derrière, c'est un très gros match de tous les joueurs.
On suivra de près, en tout cas.
Une bonne précision tactique du coach. Et derrière, tu as après des joueurs comme Aurier aussi qui sont passés à côté de leur match. Donc, c'est un ensemble de plein de choses qui fait que. Et au final, je pense qu'on ne peut pas résumer non plus la carrière de Mourinho au match d'hier.
Et merci Loïc, merci Hervé. On regardera de près, c'est promis, ce Boxing Day, la suite du championnat le plus vendu au monde et le plus regardé aussi, qui est la Première Ligue. On va s'attarder, parce qu'on est en période de fête de fin d'année, et on fait plaisir à certains de nos auditrices, de nos auditeurs, pour passer plus de temps dans des sujets tels que notre Ligue en Conforama, que nous aimons tant, la Ligue des Talents.
La Ligue des Déménageurs.
Time Sport. Le duel.
La Ligue des Déménageurs. Bravo Hervé. Bravo Hervé.
On revient pas sur la stérilité de Benzema hier.
Non.
S'il te plaît.
Eh non, quand même, les bonnes questions demi-saison de la Ligue 1 Conforama 2019-2020. Ciel à l'espace de 3 journées, laissé augurer une course au titre un peu plus ouverte. La Ligue 1 est rapidement revenue à son principe de base. Paris, Alex, loin devant. Et un large peloton, si je peux me permettre, de prétendant derrière Loïc, le coach Tollet. Est-ce vraiment, comme le pensent beaucoup d'observateurs du football et du sport, le pire championnat de la décennie? Reviens, on t'écoute.
Le pire championnat de la décennie, je pense qu'on y va un peu fort de café. Voilà, on est clairement de ça.
Je prends mes sources depuis les bookmakers à l'échelle mondiale. Hein.
Bon, voilà.
Non, vraiment.
C'est pas parole d'évangile jusqu'à preuve du contraire.
Ouais.
Voilà. Enfin, moi, si je devais tirer des leçons de cette phase aller, je tirais 4 leçons, si tu me permets.
Mais bien sûr.
La première leçon que je peux tirer, c'est que Paris, même en juin à 50%, Paris caracole toujours en tête.
C'est ce que disait Alex.
Voilà, avec 7 points d'avance, en ayant un match à disputer. Paris reste au-dessus de ses adversaires. La deuxième conclusion qu'on peut faire, c'est le bon travail fait par le travail cohérent réalisé par André Villas-Boas, qui a réussi à donner un nouvel élan, qui a réussi à insuffler un nouveau souffle, qui a réussi à transformer une équipe que beaucoup voyaient limitée et médiocre, je lève la main, en une équipe cohérente, en une équipe solide, intéressante, opportuniste et par moment même, belle avoir joué. Après, la troisième conclusion que moi j'aimerais tirer, ben, c'est le niveau global des équipes de Ligue 1 qui sont ridiculisées en Europa League par des équipes comme Cluj, Alexandria.
Bon, ça, ça date depuis nombre de saisons, je crois.
Voilà, enfin, je veux dire, ouais, mais cette année, ça a été encore plus, encore plus flagrant. T'as aucune équipe qui a gagné un seul match de Ligue Europa. Enfin, tu te fais éliminer par des équipes qui ont des noms d'antiquité.
Heureusement qu'il y a le Paris Saint-Germain ou encore Lyon qui ont représenté les clubs français. On va revenir, n'inquiète pas, sur ces clubs en Ligue Europa et même aussi tous les autres clubs en Ligue 1 Conforama, c'est promis. Une courte pause avant de revenir avec vous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Time Sport, avec Bilal Nenman.
Et oui, de retour sur l'antenne de Beurre FM pour la dernière partie de cette émission, ce début de semaine, on le rappelle lundi 23 décembre, toujours à l'écoute, on l'espère, chères auditrices et auditeurs, en voiture, dans les embouteillages pharaoniques en Ile-de-France.
Incroyable.
Mais aussi, bravo, oui, Alex a mis du temps, sans oublier aussi le code Tollé, il a mis plus de 3 heures, je crois, pour venir, aïe aïe aïe. Mais on pense aussi à nos auditeurs, nos auditrices, dans les transports en commun. Voilà, mais pas que, hein, Carcassonne nous écoute avec le 107.3, n'est-ce pas, Côte Tollé?
C'est magnifique, Carcassonne. Les transports en commun, tu veux dire les trottoirs publics, en fait, c'est ça. Parce que tout le monde marche ensemble, c'est ça que tu veux dire. Ouais.
Alex, elle est pas mal, celle-là. On s'est attardé sur, justement, ce bilan mi-saison Ligue 1 Conforama sur cette saison 2019-2020. Et on revenait aussi sur le cas de l'Olympique de Marseille, de ses clubs en Ligue Europa, et ça fait niette. C'est ça, Hervé?
Ben oui, enfin, tu constates quand même que parmi toutes les équipes françaises qui étaient engagées en Europa League, on n'a eu aucune victoire. Et le pire, c'est que tu te fais éliminer par des équipes méconnues, enfin, par des équipes qui ont des noms.
Et les Belges sont au rendez-vous, hein?
Enfin, tu te fais éliminer par Cluj, par des équipes méconnues. Enfin, je trouve que c'est. Je trouve pas qu'on soit si mauvais au point de se faire ridiculiser par des équipes roumaines ou autres. Je trouve qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on se pose les bonnes questions. Est-ce qu'on travaille bien? Est-ce qu'on se donne les moyens de réussir sur la scène européenne? Moi, je suis pas persuadé.
Alors, Alex, c'est le coach Tollé.
Juste pour... Ouais. Je vais pas développer. C'est juste par rapport à ce qu'il vient de dire là.
Ouais, Hervé.
Ça veut dire soit effectivement que notre Ligue 1 et nos clubs et nos joueurs sont moins bons qu'avant, soit c'est le travail des pays étrangers qui s'est amélioré aussi. Peut-être que par le passé c'était moins bon et donc du coup il y a une amélioration dans le jeu. C'est pour ça qu'on va perdre ou faire des matchs nuls contre Alexandria, Cluj et des équipes en bois comme ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Ouais, le coach Tollé, fait peur quand même.
Juste pour finir,
Alex avait raison.
T'as l'émergence de ces clubs-là. Avant la Roumanie, c'était Dynamo Bucarest, c'était ces clubs historiques.
Ils bossent aussi, puis ils s'améliorent.
Ouais, je pense qu'il y a un problème de mentalité aussi chez nous. Enfin, à un moment, on n'est pas.
La mentalité n'y est pas.
Bien sûr qu'on n'a pas.
On n'a pas faim.
Pour en revenir au bilan de Ligue 1, on ne parle pas de ces équipes du type. Que j'aime bien, moi.
Alors,
voir
lesquels?
Du type Strasbourg, Montpellier encore. Bah, je vais te dire
Stade de la Méno.
Parce que c'est des équipes qui sont bien structurées, qui ont des vrais projets. Tu prends Reims, par exemple, depuis leur remontée en Ligue 1. Moi, quand je vois laisser l'équipe de Reims, qui a un gros bloc défensif, qui est capable de te sortir 3-4 joueurs dont on ne connaît de nulle part, mais qui sont capables de marquer au Vélodrome, de marquer au Parc des Princes, de marquer à Lille. Et donc moi je trouve ça bien, ça montre quand même que tu as des clubs en Ligue 1. Je pense que c'est des clubs plutôt tranquilles, mais qui sont là, qui font leur saison, qui ont une structure bien définie, parce que oui, on le dit assez, il y a tellement peu de moyens, c'est tellement difficile d'aller acheter des joueurs. Ben, eux ont une vraie politique de recrutement, une vraie politique de formation. Et ils savent où aller chercher des bons joueurs. Alors que t'as des ratés comme tout le monde, mais quand tu regardes ces équipes là c'est toujours difficile de les faire jouer. Tu prends Montpellier, dont on ne parle jamais, depuis que Derzakarian pardon, à ce club depuis 3 saisons. Et ben à Montpellier, c'est peut-être pas forcément beau à voir, mais c'est cohérent, c'est costaud. Il y a toujours 2-3 joueurs qui arrivent à sortir
dans ces clubs de
je trouve ça intéressant. On n'en parle pas, mais c'est ce
on
qui
en
fait
parle
dans
moins
Nick,
parce que ça fait moins aussi rêver.
C'est cohérent. Ouais, mais c'est
après
cohérent,
même quand tu regardes dans les clubs de cette envergure, quand tu peux voir que Rennes, ils ont le deuxième meilleur bilan de l'histoire de leur club.
Ouais.
Et ça, si tu veux voir ça, ça remonte à 1961. Donc c'est que tu vois que de l'autre côté, il y a des bons résultats qui se font aussi en matière des clubs comme Rennes. Et faut pas oublier Lille, ils sont aussi invaincus à domicile. Tu vois, donc quand tu fais la rétrospective à l'intérieur de la Ligue 1, il y a des bons retours. Tu peux regarder André Villas-Boas, il est rentré dans le top 3 des meilleurs entraîneurs avec une moyenne
de
par match. Donc non, je pense qu'il y a des bonnes choses à voir. Après, peut-être que au niveau de la scène européenne, On n'y est peut-être pas cette année.
Pitié, tu peux le dire.
On n'y est peut-être pas cette
clairement,
année.
Oui.
Mais bon, après, voilà, il y a toujours
c'est
des années comme ça dans
pas
le football.
Le championnat français, d'accord.
Il ne fait pas rêver.
Le souci que l'on a.
Alors,
je suis d'accord avec toi. Pourquoi il ne nous fait pas rêver? Parce que, hormis le Paris Saint-Germain qui est dans une autre galaxie,
ouais,
le problème, c'est que. En France, mais dans une autre galaxie quand même.
Oh,
le problème, c'est que les locomotives de cette Ligue 1 manquent de régularité, manquent de cohérence.
Ah oui, mais tu parlais de projet chaque année. C'est un nouveau projet à Lyon, un nouveau projet à Marseille.
Mais oui, c'est la difficulté économique que l'on rencontre dans le football actuel. C'est qu'il y a quelques saisons, c'est pas une excuse, mais tu pouvais travailler sur 3-4 saisons. Aujourd'hui, c'est sur 6 mois.
Non, ça fait un bail qu'on peut travailler sur 3-4 saisons.
Il a raison, Alex. Il a raison.
Ça fait un moment qu'on peut plus travailler sur 3-4 saisons.
T'as pas de cohérence.
Mais il n'y a jamais de cohérence. Si on réfléchit bien en football, il n'y a pas vraiment de cohérence.
C'est pour cela que c'est là où j'y viens. C'est que malheureusement, derrière le PSG, les gros cylindrés ont du mal sur la durée. Parce qu'il y a une demande de résultats aussi. Et malheureusement, c'est de plus en plus compliqué aussi de rivaliser avec le reste
de l'Europe. Mais ça, c'est les mentalités de maintenant qui sont comme ça. Il y a les supporters qui mettent cette pression.
Mais tu veux des résultats.
Et maintenant, on veut toujours tout vite et tout de suite.
C'est vrai.
C'est comme ça. Maintenant, tu as le fast-food et les gens, ils veulent du résultat rapide. C'est pas. Ils veulent quoi maintenant.
Le problème.
On termine avec toi, Alex.
On le voit en plus cette année. Toi, tu disais que Claude, tu disais que tu prenais plaisir à regarder certaines équipes, qu'il y avait des projets qui étaient bien en place. Ouais, enfin bon, le vrai problème de la Ligue 1, c'est déjà qu'il y a un manque de professionnalisme déjà au niveau de la direction de ces clubs-là. Les directeurs, les présidents de clubs.
T'aimes pas les PowerPoints de
Messieurs Héros? N'ont pas l'envergure.
T'aimes pas les PowerPoints de Messieurs Héros?
Pardon?
T'aimes pas les PowerPoints de Messieurs
Héros? Si je pouvais le. Non, je sais.
On va rester cool. On va rester cool, justement. On va revenir sur cette.
Voilà, le héros, on est en train de lui cirer les pompes maintenant parce que Villas-Boas, ça fonctionne et parce qu'il a réussi à remettre. À faire sortir Payet de sa dépression. Bravo. Mais non, héros me fait pas kiffer. Héros.
On va continuer, on va
poursuivre. Les sont mauvais à leur niveau.
Ouais.
Et le PSG, c'est plus une équipe de Ligue 1, c'est une équipe européenne. Donc et le problème c'est que derrière ça fait pitié. Ça fait pitié en Coupe d'Europe, ça fait pitié déjà dans l'affluence dans les stades sont pas pleins. Regardez tous les week-ends, mettez la télé, zappez de
On va revenir justement, Alex, merci, sur la dernière journée de Ligue 1, la 19e journée, la dernière rubrique de cette émission.
Time Sport, le mode pressing.
Oui, ce qu'il faut retenir de cette 19e journée, l'OM qui flambe, Rennes qui s'installe, Leonardo Jardim qui s'accroche quand même tout de même à l'AS Monaco et Antoine Comboré qui décroche avec Toulouse. C'est pas faux ce qu'il disait.
Ouais, c'est ça. Alex parlait de l'affluence qui était quand même de 15 000 il y a encore quelques années, qui a un petit peu augmenté à 20 000.
Ouais.
Ça reste compliqué, honnêtement, à part Marseille, à part le PSG, à part
Marseille,
Lens,
quand même, c'est 51 000.
Ça a démarré dur cette année en plus.
Ah, wow. 51 000.
Ouais,
c'est pas mal, messieurs.
Ou Dijon, c'est plein. Ah, on s'épaule pas aussi.
Quand même, Alex.
Au-delà de l'OM, les stades ne sont
pas mal.
Sur ça a toujours existé, ça.
Bordeaux, c'est à moitié vide.
Ouais, malheureusement.
Toulouse, les garçons, ça a toujours existé, ça.
Non, à l'époque de.
Ah non, bien, moi.
Non. L'Escure, Bordeaux, il y avait une vraie ambiance.
Non, mais je parle en
Ligue 1. Les Bordelais le disent aussi.
Non, je parle en Ligue 1.
Les Bordelais le disent, Hervé, c'est vrai.
On dirait la flèche.
La Ligue 1 a toujours été à
moitié. Oh, quand même pas, Hervé.
Arrêtez.
Ça a toujours été à moitié.
Mais le problème de ça, c'est que les présidents de club comptent sur quoi aujourd'hui? Et depuis même plus de 20 ans maintenant, sur la manne financière apportée par les télévisions. Ils ont oublié une chose, ce qu'a fait l'Allemagne. Oui, on veut de l'argent.
C'est impressionnant en Allemagne.
Les télés. Oui, on veut de l'argent via le marketing, via la vente de maillots, etc. Mais il faut faire rentrer les gens au stade.
Mais
pour que les gens te kiffent et pour que les droits télé augmentent.
Parce que t'as moins de passion en France.
Mais t'as moins de passion parce que tu leur donnes pas. Regarde en Angleterre.
Moi, la Ligue 1, depuis que je la vois, depuis que j'existe, elle est toujours à moitié remplie.
Quand tu es de ma génération, regarde l'Angleterre des années 90.
Regarde les matchs.
Regarde les matchs. Je n'ai pas besoin d'aller sur YouTube, s'il te plaît. Je suis pas Nabil.
Regarde sous YouTube. Je suis d'accord avec toi.
Regarde l'Angleterre des années 90. Ils ont travaillé sur le packaging de leur championnat.
T'as des clubs, Alex, ou à l'étranger, même quand t'es 18e de D4, ça sera toujours rempli. Nous, c'est pas le cas.
Avec des déplacements avec 15 000 supporters.
Regarde Lens.
Ah, laissons ailleurs.
Qu'est-ce qu'on vend de Lens?
Rénover leur stade comme il faut. faut voir reconstruire des stades comme il faut pour faire venir.
Ils en ont construit quand même. On a fait l'Euro 2016, Alex.
Arrête, l'Euro 2016. Moi, je te parle de 98.
On n'est pas assez passionné.
Le mec à Marseille, il a rénové le stade. Il était fier de lui parce qu'il disait regarde, on va voir la merde.
Tu vas ailleurs, tu vas dans les stades du monde. Tu vas dans les stades. Je suis d'accord avec toi.
La française, tu vas
dans des stades du monde, même dans des stades pourris. Où tu t'assois sur du bitume, ça sera toujours plein. Parce qu'il y a cette passion-là. On manque de passion aussi, malheureusement.
Oui, on manque de passion.
On le dit clairement.
Pour attirer le chaland, mon cher ami, pour attirer le chaland.
Bah, ça met du temps.
Pour réactiver la passion.
En fait, on est champion du monde et
pour
ça suffit. Ça nous suffit en France.
Il faut que le packaging soit déjà bien. Que tu arrives au stade avec ta famille. Tu te sens en sécurité, tu te sens bien. Tu peux aller manger une glace, pas à 12 francs, à 12 francs, à 12 euros le cornet, mais avec des prix raisonnables. Au Parc des Princes, essaie de te nourrir au Parc des Princes, t'as pas économisé pendant 3 semaines.
Tu vas aller, c'est bon.
Mets des pelouses de qualité, fais en sorte aussi, demande à tes
il
entraîneurs
a raison, travailler
de faire jouer.
Il est d'accord avec Alex,
on veut voir des buts.
Quand tu vois la pelouse de Reims lors du match Reims-Lyon, c'est abominable.
C'est déplorable. En France, on a un boulard comme ça, on se permet de juger.
On est champion du monde.
Je suis d'accord qu'on se donne pas les moyens. Je suis d'accord qu'on se donne pas les moyens.
Et on va accueillir les Jeux Olympiques 2024, Alex, ne l'oublie pas.
Comme il disait Alex, je pense que c'est aux grandes instances de mettre les moyens et de créer de la valeur dans le produit. Quand ils ont voulu créer de la valeur pour les féminines, pour la Coupe du Monde féminine, on l'a vu, les stades, ils étaient
remplis.
Il y en a eu quand même. Je suis d'accord. C'est un trompe-l'œil. On en parle toujours.
Ça dépend de la valeur. Bilal, qui s'intéresse au football féminin véritablement?
Mais oui,
le football féminin,
il y a eu 15% de plus.
C'est juste un effet marketing.
Moi, je m'intéresse.
Ouais, le coach étoilé aussi.
Pour des raisons qu'on peut pas citer à l'antenne.
Tu t'arrêtes, Hervé.
C'est important, dans ce cas-là, dis-le. C'est quoi les raisons qu'on peut pas citer à l'antenne?
Alex Morgan,
c'est parce que t'as un public comme le public handicapé, qui n'ont pas la possibilité. On leur donne pas la possibilité de pouvoir s'exprimer. Si toi, t'as d'autres façons de voir les choses, il y a aucun souci. Mais ne dis pas ce que tu ne sais pas. Bien sûr, je t'interdis de dire ça. Le coach étoilé, je te laisse terminer. Non mais pas encore.
De toute façon, c'est terminé.
Attends, juste pour terminer, on n'arrive pas à s'enflammer pour le championnat de Ligue 1 Conforama acheté 725 millions par Media Pro et tu vas nous faire croire.
Donc on va espagnol.
Ils vont s'enflammer pour la dernière féminine.
Mais nous. J'ai dit ça.
Il n'a pas dit ça. Mais lui, il parlait de cela.
J'ai dit ça.
Coach Tolé.
J'ai dit ça. J'ai dit moi, ça m'intéresse.
Bien sûr.
J'ai dit ça m'intéresse.
Globalement, ça intéresse personne.
J'ai pas dit le contraire.
Globalement.
Mais ne mords pas sur tes propos.
Merci Hervé, merci le coach Tolé. Il nous reste à peu près deux minutes. On va pas quand même en arriver à couper les micros. On va pas couper les micros quand même, le coach Tolé. Je sais bien, il a respecté. Il est parti sur un autre délire. Il y avait rien à voir.
Ok,
on aura le prochain, la date du prochain combat entre le coach Tolé et aussi Hervé Dibé. Ça, voilà. Et aussi, on cherche une salle si vous voulez, chers auditrices, auditeurs. Si vous en avez une, vous pouvez nous contacter le 01 53 48 3000. Yanis n'en revient pas. Mais oui, Yanis, allez, 1 minute 30 à peu près. Loïc, justement, on a retenu cette Marseille, cette Olympique de Marseille qui flambe, Rennes qui s'installe un petit petit peu et on oubliera peut-être le départ, on n'espère pas, d'Edison Cavani.
Ah, de Cavani ?
Ouais.
On espère qu'il restera quand même.
Ouais, quand c'est, même.
Ça s'annonce compliqué, mais bon.
Aïe, aïe, aïe.
De voir terminer sa carrière à Paris.
Et on n'oubliera pas que.
Alexandre.
Lyon, on n'oubliera pas que Lyon n'est plus dans la première partie de tableau de ce championnat.
12e.
Ouais.
C'est une première depuis
c'est
bien
arrivé dans
1900 bien redescendu.
On n'oubliera, ouais. On n'oubliera pas ça, que ce début de saison, comme on le disait tout à l'heure, a été très poussif. Très bizarre, très poussif, et que petit à petit on a su s'ambiancer, se hyper sur la fin, les dernières journées, les 5-6 dernières journées, on a vu l'OM remonter, on a vu des choses qu'on voyait pas avant, Payet qui court, Monaco qui revient dans le top 10, Lyon qui s'écrase littéralement, et même Jean-Michel Aulas qui dit je fais que des conneries presque depuis 10 ans. J'aurais pas dû virer Genesio, j'aurais pas dû écouter les supporters. Bah bravo Jean-Mimi.
Merci Alexandre, on termine avec toi.
On n'oubliera pas la descente aux enfers du TFC qui navigue en eau trouble depuis le début de la saison avec Comboiré.
On se retrouve demain à partir de 19h comme d'habitude du lundi au vendredi, c'est Tam Sport. On aime tous les sports et toutes les disciplines, faut le rappeler. Dis Alexandre.
La Formule 1 aussi.
Ouais, en tout cas, une petite dédicace à nos auditeurs et les auditrices, c'est Sacha avec Anna qui nous ont écoutés ce soir sans oublier Sofia, elle a dit Hervé, il était très très chaud et il doit faire attention et respecter aussi le coach Tollé. Je m'amuse pas, c'est les dédicaces que j'ai à faire là sur la tutosphère et sans oublier Razo qui nous écoute depuis la première heure sur l'antenne de Beurre FM. On se donne rendez-vous donc demain. Une très belle soirée à toutes et à tous. La suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.